东端。Merci. Oui. Bienvenue sur Mode d'emploi, l'émission, donc le format secret de fabrication, tous les troisièmes vendredis du mois sur 106.3 FM, www.rfpp.net. Donc l'émission Mode d'emploi, comme vous le savez depuis quelques années maintenant, invite toutes sortes de personnes travaillant sur de la fonction publique, dans des parcs, mais aussi des magasins, et puis aussi des experts qui viennent raconter aussi une autre forme de vision de la vie dans les entreprises. Et évidemment, tout ce qui lie tout ça, c'est la résistance, donc la résistance à la transformation en machine, qui fait que on reste des êtres humains et qu'on continue à s'affirmer comme tel. C'est parfois difficile, mais on a pas mal d'exemples de situations où ça marche. Alors, un des premiers exemples à placer est l'exemple de la répression. L'exemple de la répression qui donc doit se surveiller en permanence, doit se contrôler en permanence, parce que on attend en face les employeurs ne sont pas dupes, ils savent qu'on va leur causer des problèmes. Les syndicalistes s'agitent dans les entreprises et donc ils nous surveillent et ils veulent nous descendre. Et donc, nous avons eu l'obligation à la rentrée d'attendre que le mouvement social nous présente une belle occasion, l'occasion de résister à toutes les répressions. Et un meeting s'est tenu donc mercredi soir à la Bourse du Travail de Paris, où l'ensemble des réprimés de la rentrée, comme le disait un camarade de l'inspection du travail, se sont présentés pour expliquer leur lutte et expliquer en quoi ils résistaient quand même, malgré des cas très difficiles, des licenciements, des mises à pied de salariés, dont, vous imaginez bien, notre camarade Anthony Smith, dont on a déjà parlé, et qui a donc obtenu une petite victoire, qui nous a raconté ce soir-là.
On s'excuse juste auprès de tous ceux qui nous suivent par YouTube ou Facebook. Parfois, c'est dû au débit Internet dans la salle. Il y a des petites coupures, mais c'est en train d'être réglé. Donc, place à Anthony.
Ouais, bonsoir à toutes et tous. Je voulais d'abord vous dire merci, en fait. Alors, je sais, en vous disant merci, les camarades vont me dire « Arrête de dire merci, tu dis merci tout le temps. » Mais je vais vous dire pourquoi je dis merci. Je vous dis merci à toutes et tous aujourd'hui parce que pendant des années, comme militant syndicaliste, j'ai défendu des collègues, j'ai défendu des camarades qui connaissaient des coups durs, des coups très durs. Et le jour où moi, j'ai subi un coup très dur depuis 5 mois, eh bien, il y avait avec moi, derrière moi, à côté de moi, devant moi, des centaines, des milliers de citoyens, de collègues et de camarades et du collectif qui nous ont soutenus. Et cette solidarité, cette force-là, eh bien, c'est notre richesse, on doit la cultiver et c'est aussi pour ça qu'on doit lutter aujourd'hui tous ensemble. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que... Alors oui, je suis suspendu depuis... j'ai été suspendu pendant 4 mois. J'avoue que quand j'en parle... Je considère que c'est totalement surréaliste encore aujourd'hui, cette histoire-là. J'ai été suspendu pendant 4 mois pour avoir, pendant Covid, demandé à un juge indépendant d'ordonner la mise à disposition d'équipements de travail pour des aides à domicile. Et ça, évidemment, ça a été considéré par ceux qui dirigent comme étant inacceptable et ils m'ont suspendu. Je le dis d'autant plus que cette action-là, je l'ai menée dans un secteur qui est celui des aides à domicile. Et je veux leur rendre hommage. Je pense aux délégués syndicaux de cette structure, je pense aux salariés de cette structure, de toutes ces structures-là qui, pendant Covid, et il y a d'autres, malheureusement, qui ont subi également, ont été complètement oubliés de cette situation-là et qui vient s'ajouter à des conditions de travail qui sont dans ce secteur particulièrement désastreuses, avec des payes de misère, avec des horaires assurés, avec des conditions de travail extrêmement difficiles pour un public, pour des salariés qui sont massivement des femmes et qui travaillent à temps partiel dans des conditions extrêmement dures. Et ça aussi, il faut le souligner, leur rendre hommage. Elles ont été complètement oubliées dans cette séquence-là. Toute l'action que j'ai conduite dans cette structure, elle ne s'est pas faite de façon extrêmement facile. Pour le dire autrement, il y a toute une série de pressions et d'influences qui ont été documentées dans cette affaire-là. L'inspection du travail, vous savez, c'est un tout petit corps. C'est d'ailleurs un trop petit corps, quoi. C'est 1870 inspectrices et contrôleurs du travail pour près de 20 millions de salariés dans ce pays. Ça, c'est la réalité de l'inspection du travail. C'est un petit corps, mais c'est un petit corps qui a une longue histoire. L'histoire sociale de l'inspection du travail, elle est antérieure même à la création du ministère du Travail en 1906. Et cette inspection, elle a été créée avec une idée majeure. C'est que les lois sociales qui étaient mises en œuvre dans ce pays, elles supposaient un corps social pour contrôler leur application. Parce qu'on n'est pas à égalité dans la relation de travail. Dans la relation de travail, on est subordonné à une aliénation aux ordres du patron et à l'organisation du travail dans l'entreprise. Et cette situation-là, cette création de l'inspection, elle s'est faite avec des garanties pour les inspecteurs du travail, qui étaient notamment des garanties d'indépendance organisées par une convention internationale qui garantit l'indépendance des salariés. Aujourd'hui, cette indépendance, elle a été manifestement attaquée, bafouée dans cette affaire-là. Et ça aussi, il me semblait important de le souligner. Parce qu'après cette attaquée au code du travail, les camarades l'ont rappelé à de multiples reprises. Aujourd'hui, on s'attaque à l'inspection du travail. En fait, on s'attaque à l'ensemble du salariat. Et par-delà, on s'attaque à tous ceux qui protègent le salariat aujourd'hui dans ce pays. Et ça, c'est dramatique. Alors, il faut quand même terminer par une note qui est plus gaie, surtout qu'il me reste quasiment plus de secondes dans mon temps, mais juste de dire que après 5 mois de bataille unitaire et large, on a obtenu en moins d'une semaine, deux reculs qui sont conséquents. Alors des fois, on a même du mal à les regarder, ces reculs-là, et même à les comprendre et les analyser, parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas coutumier de tels reculs. Mais en une semaine, effectivement, j'ai été réintégré dans ma région d'origine, et j'ai été réintégré à l'inspection du travail, puisqu'on souhaitait me mettre dans un placard dans un autre département. Et en même temps, samedi dernier, le directeur général du travail, la plus haute autorité de l'inspection du travail, a démissionné. Donc oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Mais on s'organise. On se défend et comme on le dit souvent, on lâche rien.
On a eu la tête à Striou. Et voilà, ça y est, Striou, le directeur général du travail, est tombé. Il est tombé sur un os et il est tombé sur les genoux et sa tête est tombée à ses genoux. Bref, tout ça est par terre. Donc il y a vraiment plus rien qui tient au ministère du Travail. Non, mais on va revenir dessus plus tard dans l'émission. Mais c'est très intéressant de noter que une partie de notre boulot, c'est aussi de faire tomber les intermédiaires. Ceux qui sont dans des positions clés et qui verrouillent tout. Hein, et donc, Striou, c'était important pour nous de le faire tomber. Il est vraiment tombé suite à cette affaire Anthony, parce qu'il est allé trop loin, parce qu'il est intervenu directement à la demande d'une force extérieure sur un inspecteur du travail en plein travail, en l'interdisant de mener à bien ses démarches. Et donc, Striou, il démissionne maintenant. Parce qu'il fallait pas qu'il reste en poste quand l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, allait lui rappeler que non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas ça la charte que t'as signée et duquel t'es le directeur. Bye bye. Donc ça s'appelle se faire décrédibiliser et prendre les devants. Et oui, Striou avait compté sur Pénicaud, mais Pénicaud n'est plus là. Ah, ça c'est vraiment dommage. Voilà, donc c'était un peu les histoires internes. On va quand même passer en avant sur ce que disait notre camarade Anthony et sur le rôle de l'inspection du travail. Il y a deux personnes que je voudrais donc présenter et aussi interviewer sur cette question donc de l'inspection du travail. Donc nous avons Tiziri.
Bonjour, donc c'est Tiziri du syndicat CGT des hôtels de prestige économique.
Et Rachel?
Rachel, gouvernante à l'hôtel Ibis de Batignolles, 14 mois de lutte.
Donc Rachel, tu vas nous parler donc de la longue grève des Ibis. On verra bien que tout ça, c'est, de toute façon, il y a de la répression partout. D'ailleurs, tiens, ça y est, j'aurais dû penser à répression, effectivement, mais bon, on le passera une autre fois. Enfin, il passe sans arrêt sur notre radio. Mais c'est vrai que la répression, c'est aussi la répression des gens qui défendent leurs droits. Tu vas nous raconter comment vous avez décidé de défendre votre droit à Ibis. Donc, mais nous ne sommes pas que trois dans les studios. Nous avons aussi donc Louise avec nous. Donc, Bonjour. Bonjour. Oui, Louise, bah, présente-toi. Donc, ton rapport, par exemple, notamment précisément ici pour cette émission au Piquet Ibis.
Ok, bah, moi je suis militante politique et féministe et donc je suis venue pour soutenir la grève Ibis. Donc, je soutiens depuis le mois de septembre 2019.
Voilà. Et donc nous allons développer plus longuement sur la grève d'Ibis. Mais avant de commencer justement ce sujet-là, je voulais passer la parole à Tiziri sur le rôle en tant que syndicaliste donc que tu envisages toi pour l'inspection du travail. Comment tu les fais intervenir? En quoi c'est un outil pour toi d'avoir des collègues à l'inspection du travail qui peuvent faire ce relais? Et quel relais tu leur demandes de faire?
Ben, pour moi, l'inspection du travail, bien évidemment, c'est quand même un outil incontestablement important pour les luttes et pour enfin visibiliser et montrer justement toutes les anomalies, tout ce que met le patronat en place pour justement exploiter, voire surexploiter en fait les salariés. L'inspection du travail, c'est un organisme avec qui on travaille, mais réellement, enfin en permanence quoi. Que ce soit en fait sur des cas de dossiers individuels ou des procédures collectives, je pense à toutes les fois où on écrit des courriers de contestation d'avertissement ou de quoi que ce soit pour les salariés. Où on met en copie l'inspection du travail pour les tenir informés de la situation dans tel ou tel établissement. Je pense à ça. Je pense à toutes les fois où on sollicite l'inspection du travail pour des rendez-vous pour signaler un ensemble d'agissements complètement anormaux, voire même illégaux, en fait, au sein des entreprises. Je pense à la dernière période pendant laquelle je m'étais... Alors, j'ai eu... À contacter l'inspection du travail pour signaler un certain nombre d'entreprises qui font de la fraude aux indemnités d'activité partielle. Donc voilà, enfin c'est tout ça. Je pense précisément, par exemple, à la grève de l'Holiday Inn où effectivement on a demandé à l'inspection du travail d'intervenir en signalant l'ensemble des problèmes où ils étaient venus à plus de 15 pour faire effectivement des contrôles dans l'ensemble des services. Ils ont relevé effectivement toutes les anomalies. À l'hôtel Ibis des Batignolles, où pareil, l'inspection du travail a donné suite favorablement à notre demande d'intervention pour effectivement voir tout ce que les grévistes soulignent elles-mêmes en fait à travers leurs revendications. Donc bien évidemment, l'inspection du travail, c'est un outil incontestablement important en fait pour justement relever tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui patronat et politique ne cessent de remettre en cause cette institution à travers les réorganisations, à travers la répression comme celle que subit le camarade Anthony effectivement. Celles qu'ont subi un certain nombre en fait d'inspecteurs du travail depuis un moment. Donc voilà, je termine juste par un point. Nous en fait en tant que syndicat de l'hôtellerie, on n'a jamais cessé y compris de communiquer en fait sur les différentes réorganisations à l'inspection du travail. Je pense notamment à une lettre qu'on avait adressée à Pénicaud au moment de la réorganisation il y a 2 ans. Justement, on protestait contre ça et on demandait le maintien des postes de contrôleurs parce que réorganisation rime aussi avec suppression de postes de contrôleurs et d'inspecteurs du travail. Donc on a fait un courrier qu'on a adressé à Pénicaud et qu'on a d'ailleurs diffusé dans l'ensemble des hôtels où on a des sections, c'est quelque chose qui a été affiché. Je pense aussi à tous les rassemblements auxquels on, de soutien aux camarades inspecteurs et inspectrices du travail auxquels on a participé aussi en tant que syndicat pour réaffirmer notre soutien et notre solidarité les plus grands et les plus importants.
Oui, bah effectivement, c'est important. C'est pour ça que je voulais faire le lien avec le meeting de mercredi, parce qu'en fait, à la fois, on est chacun dans sa bagarre. Hein, on va en parler plus longuement. Mais c'est intéressant de noter que les gens qui se bagarrent aussi dans les coulisses de vos bagarres sont aussi face à leur propre bagarre, et qu'en fait, si on se tient pas un peu, il y a tout qui part, en fait. Hein. On a besoin, nous, à l'inspection du travail, très clairement, très souvent, on a exprimé le besoin que les salariés et les syndicalistes viennent dire à nos côtés en quoi on était utile, parce que ça nous sert ensuite, nous, à nous réaffirmer, ce qui nous permet ensuite d'aller sur le terrain pour faire le boulot qui est de défendre les salariés et les syndicalistes. Je voulais demander à Rachel, l'inspection du travail, comment tu vois ça au sens de qu'est-ce que tu as comme expérience pratique de cette institution? Et est-ce que tu as des choses que tu veux éventuellement souligner ou des questions là-dessus?
Bah, moi, ça fait quand même 17 ans que je travaille à l'hôtel Ibis Les Batignolles. Mmh, mmh. Donc, ça fait plusieurs fois que nous sommes déplacés pour aller voir l'inspecteur de travail par rapport aux conditions de travail, par rapport surtout à la maltraitance, comment la sous-traitance traite les salariés au sein de l'hôtel Ibis. Donc, je pense que le rôle de l'inspecteur du travail est très important dans la société, surtout pour les travailleurs les plus démunis. Parce que quand même, quand ils arrivent sur le lieu de travail, ils constatent que ce qu'on leur dit, c'est la pure vérité. Donc, ils relèvent des choses que eux-mêmes, souvent, ils n'arrivent pas à comprendre, ils sont dépassés. À l'hôtel Ibis Les Batignolles, l'inspecteur de travail était venu. On mangeait au cinquième étage dans un petit, dans une petite salle où on pouvait même, où 10 personnes ne pouvaient même pas contenir. Pourtant, on était plus de 40 personnes qui travaillaient au sein de l'hôtel Ibis. Donc, quand il arrivait, il était complètement dépassé. Il a dit au directeur de l'hôtel Ibis, mais ces personnes sont maltraitées. Et pourquoi ces personnes ne mangent pas avec vous au restaurant? C'est complètement de la discrimination. Donc, il y a des inspecteurs de travail qui font leur boulot, et je remercie, je soutiens totalement le camarade Anthony pour sa lutte, parce que au moins c'est grâce à leur lutte que aujourd'hui ils dénoncent ce que nous vivons au sein des hôtels et partout d'autres. Voilà. Donc franchement, le travail de l'inspecteur de travail, c'est important, 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 surtout pour nous, surtout les femmes racisées et les hommes racisés, dans les bâtiments, dans les restaurations et partout. C'est vraiment important. Donc c'est une institution qu'il ne faut pas vraiment bannir, et il faut les soutenir, parce qu'il y a d'autres qui font leur travail, qui ne sont pas corrompus, qui font leur travail, et ceux qui font leur travail, on doit les soutenir.
Voilà. D'accord, bah effectivement, merci beaucoup. Bah, je pense que c'est important. On a aussi besoin, nous en tant que même de notre point de vue, que les salariés défendent dans le plus clairement possible en fait leurs droits, leurs revendications. C'est deux choses en fait, c'est deux piliers. Si nous on fait défaut, évidemment, c'est plus dur pour les salariés. Mais si du côté des salariés il se passe rien, c'est plus dur pour nous. Donc nous on est toujours bienvenus quand les salariés lèvent la tête et disent bon alors cette question des horaires, cette question des mutations, cette question des tickets restaurants. Et aussi, où est-ce qu'on mange, où sont les toilettes, il y en a combien, c'est des questions. Tout ça, c'est un ensemble. Et on ne peut pas travailler correctement si on n'est pas dans cet ensemble-là. Et c'est les salariés qui nous viennent nous voir, en fait. Et ça, c'est aussi, bon, c'est quelque chose sur lequel on a déjà discuté, sur le fait qu'on se fasse restructurer. Le fait, ça vise beaucoup aussi à empêcher les salariés de venir nous voir. On ferme les permanences, on ferme les accueils, les secrétariats. D'accord ? Parce que nous, notre vie, enfin, ce qui nous ramène sur le terrain, c'est les signalements des salariés. Donc, de l'autre côté du couple dans l'histoire, si les salariés ne nous signalent rien, nous, on est beaucoup moins efficaces pour bouger. Donc, c'est, voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça qu'on est très intéressés par des grèves comme celle d'Ibis. Toujours des grèves sur des questions de sous-traitance, en fait, à un moment donné. On a eu beaucoup de gens, on a eu Honnête ici, on a eu Vendôme qui sont passés, Holiday Inn. Pourquoi? Parce que cette question est vachement importante. Et effectivement, donc à quel moment, voilà, moi je voulais venir là-dessus. On va faire une petite pause musicale dans 2-3 minutes, mais d'abord juste à quel moment toi et tes amis vous avez commencé à vous dire bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On a rassemblé assez d'éléments pour se dire maintenant, il faut que... Et puis, sur quoi vous êtes parti d'abord? Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement d'abord? Et voilà, qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Mais le déclencheur, c'était... quand STN est arrivé dans l'hôtel Ibis Les Batignolles, quand ils ont pris le chantier... Et ils sont arrivés avec une violence pas possible, c'est-à-dire ils refusent d'embaucher les gens. Donc on était vraiment submergés du boulot. Les cadences infernales, ils donnaient 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres. Les femmes de chambre tombais malade. Donc, quand tu es malade, tu vas voir l'inspecteur de, non, le médecin de travail, pardon. Et le médecin de travail, vu ton état de santé, t'a dit tu ne peux pas faire ce 30 chambres, 40 chambres, demandait à SN de te baisser les chambres. Donc, ça fait qu'au lieu de faire 30 chambres, tu te retrouves à 12 chambres, 10 chambres. Donc, SN avait vu que le salarié qui est malade ne pouvait pas lui rapporter beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'hôtel Ibis, quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont en temps partiel. Et nous, quand on nous donne 30 chambres, c'est plus de temps partiel, ça peut faire 35. Voilà, donc... il a vu qu'il y avait quand même 12 personnes qui étaient malades, donc il avait décidé de muter. Donc c'est ce qui a été le déclencheur de cette grève. Donc on s'est attendu, comme on avait la CGT propriété, on était allé voir la CGT propriété pour leur expliquer les conditions de travail, comment SCM traitait, nous traitait au sein de l'hôtel Ibis, et on a vu qu'ils étaient corrompus, donc ils n'ont rien fait. Et quand on a entendu parler de la CGT HPE, on est allé voir la CGT-HPE, on leur a expliqué nos problèmes et eux nous ont mis sur la voie parce que quand même c'est des professionnels en syndicat. Donc, ils nous ont mis sur la voie et ils nous ont demandé si on pouvait se syndiquer. Et là, on était plus de 30 personnes à se syndiquer.
Ok, on va poser les pieds dans le plat puisque tu as soulevé la question, Rachel. Donc, je te remercie. Donc, on a deux CGT dans l'histoire. Tu viens d'entendre, moi, deux CGT.
Oui.
Bon. Ok, alors on va laisser tomber les noms. Comme ça, il n'y a pas de noms.
D'accord.
C'est quoi la bonne, c'est quoi la mauvaise? C'est quoi la différence entre les deux?
La mauvaise, c'est la CGT propriété. La CGT qui est au sein, c'est-à-dire des sociétés.
Ouais.
Voilà, qui travaille pour la sous-traitance.
Qui travaille pour la sous-traitance.
Pour la sous-traitance.
Pour le patron, en fait.
Voilà, qui travaille pour le patron.
D'accord.
Eux, c'est pas de bons syndicats. Mm-hmm. Parce que ceux qui sont en dehors de la sous-traitance comprennent mieux nos problèmes. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, ils ont des grosses sommes d'échecs et ils acceptent la maltraitance que la société mène envers les salariés.
Ok.
Pour la petite histoire, c'est assez extraordinaire parce que en plein conflit, donc on tombe sur la liste des chantiers gérés par la société STN, donc la liste des chantiers nettoyés par la société STN. Et parmi ces chantiers-là, eh ben, en fait, il y a la CGT Propreté, dont les locaux sont nettoyés par la société STN qui est en conflit avec dans cette...
Non, mais alors attends, ça veut dire, si je comprends bien, la STN nettoie les locaux de la CGT Propreté qui nettoie les locaux de la STN, en fait.
Tout à fait.
Hein, c'est ça, hein, des méchants syndicalistes qui posent des problèmes. D'accord, ok, j'ai compris. Ben, c'est bien, tout le monde nettoie tout le monde.
Ouais, c'est ça.
Ok, donc, alors dans ce cas, je vais te demander l'inverse. Rachel, c'est quoi un bon syndicat pour toi alors?
Mais un bon syndicat, c'est déjà celui qui écoute les salariés, qui écoute la souffrance des salariés et qui se dit, qui met aussi, qui montre le salarié ses droits.
Mmh.
Voilà, qui dit aux salariés, parce que quand même la plupart de nous ne savent pas lire écrit, donc ne savent pas aussi leurs droits, parce que quand même, on est en France, mais on ne connaît pas nos droits. Donc un bon syndicat, c'est celui qui montre aux salariés, voici tes droits, voici ce que tu peux obtenir, voici ce que tu peux avoir. Moi, j'appelle ça un bon syndicat. Et aider le salarié à avoir ses droits, à percevoir ce que le salarié cherche.
Mmh. Et donc, donc, vous avez mis combien de temps à identifier le bon et le mauvais syndicat? Allez.
14 mois.
Non.
Le bon, 14 mois, et le mauvais, 16 ans.
Ouais, d'accord. Bon, ça va plus vite avec le bon, alors. Hein. Quand même.
Quand même avec le bon, mais c'est cool, mais ça va plus vite, quoi. C'est mieux.
Ok, on va reprendre après la pause. Et donc un petit peu de Idir, de Manu Chao, de Gnawa Diffusion pour se mettre en route vers la grève, quoi. Hein Donc voilà, la décision est prise. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. On a décidé de bloquer. Les premières idées, c'était plutôt bloquer l'hôtel. C'était plutôt aller voir la direction d'abord. Ou c'est, ça, c'est comment, comment est-ce qu'on aboutit finalement à faire un piquet devant l'hôtel et à essayer de bloquer un maximum, je dirais, bah, l'entrée-sortie dans les limites du raisonnable et contrôler évidemment le travail sur les chambres. Comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que c'est le point de départ ou c'est un point d'arrivée déjà?
Mais je pense qu'au début, on était allé déjà, on avait fait un courrier à STN. Et ils nous ont convoqués. On a été à la négociation. On leur avait expliqué les conditions de travail qui étaient vraiment pénibles. Et ce qui nous a sorti, il nous a dit, j'ai l'habitude de faire de longues grèves si vous voulez. Vous pouvez faire 3 mois, 4 mois de grève, je ne sais de rien du tout. Donc voilà. Donc nous, quand nous sommes allés se syndiquer, quand nous sommes venus du bureau, on a trouvé le bon syndicat et on leur a expliqué. Et c'est comme ça qu'ils nous ont dit de se syndiquer parce que s'ils n'avaient pas la majorité des syndiqués, ils ne peuvent pas aller en grève. Donc effectivement, on s'est syndiqué, on était presque 32 personnes, si j'ai une bonne mémoire, à se syndiquer. Et ce sont eux qui ont... Ils nous ont trouvé une date et on était prêts. Quand nous sommes arrivés le 19 septembre, on s'est consulté, on a dit bon, le 17, c'est la grève.
Là, on est vraiment sur un cas où vous avez décidé en même temps de constituer la section syndicale et de commencer le mouvement. Où il y a, bon, voilà, mais c'est l'un pour l'autre en fait, quand même. C'est. Thierry,
En fait, alors, on peut paraître un peu très carré, voilà, sur le truc, mais pour nous, la prépa, enfin, je parle pour nous syndicalement, la question de la grève, elle est aussi importante que la grève elle-même. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, enfin, on ne démarre pas une grève sur un coup de tête, on ne démarre pas une grève sans organisation. Voilà, pour nous, c'est quand même très très important aussi, en fait, de construire un rapport de force. C'est notre conception du syndicalisme, d'ailleurs, enfin, le syndicalisme. Le syndicat, c'est ce qu'on leur dit tout le temps, en fait, aux camarades qui se syndiquent chez nous, c'est votre outil. C'est votre outil, c'est-à-dire que c'est un moyen avec lequel vous construisez un rapport de force au sein d'une entreprise. Nous, en tant que syndicalistes syndicaliste salarié du syndicat, notre rôle, c'est de vous orienter, de vous éclairer aussi sur certaines choses aussi, puisqu'on n'est pas juriste non plus. Notre but, notre rôle aussi, c'est de vous donner les moyens de mener une lutte. Et nous, on leur a dit que de toutes les manières, on portera ensemble avec vous les revendications et c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de quand vous commencez et c'est vous qui décidez de quand terminer. C'est vous qui décidez de quel accord accepter. C'est très important tout ça. Et effectivement, ce qu'on leur a expliqué dès le départ, c'est que nous, on ne pouvait pas partir en grève ou encadrer ou comment suivre une grève si effectivement des camarades ne se syndiquent pas. Parce que pour nous, syndicalement, prendre sa carte, c'est un acte militant. Prendre sa carte syndicale, c'est adhérer au collectif, c'est créer le collectif. Et donc effectivement, c'est ce qu'elles ont décidé de faire. Donc elles se sont syndiquées. Et effectivement, on s'est dit, bon là, on est prêt, on peut partir quand vous voulez. Et il faut quand même dire un truc, c'est que pour le coup, le sous-traitant a choisi pour nous la date, parce qu'effectivement, dans la même semaine où on a démarré la grève, beaucoup de 13 femmes de chambre, donc de l'établissement, ont été convoquées à des entretiens en vue de mutation. Parce que ce que disait Rachel, c'est qu'effectivement, la médecine du travail a mis des restrictions suite justement à des problèmes de santé des unes et des autres. Et la société STN, plutôt que de réadapter les postes en fonction des restrictions de la médecine du travail, a choisi de les muter sur d'autres sites.
Si je reprends la chronologie pour bien comprendre, on a donc de gros problèmes de conditions de travail, d'insuffisance donc dans le respect des contrats, etc., qui poussent les collègues à se mobiliser, déjà à commencer à se syndiquer, à se poser des questions sur les conditions de travail, etc. Donc, dans le cadre de cette démarche-là, les collègues vont voir le médecin du travail. C'est ce que, hein, voilà. qui dit, bah oui, effectivement, comme l'inspection du travail du passé pour la restauration, le médecin du travail pour les conditions de travail dit, il y a tel, tel problème. Voilà, maintenant, le résultat, c'est que les salariés ont des restrictions parce que, bah, sont usés, fatigués par le travail et que vos postes ne sont pas adaptés. Bon. Et là, simultanément presque, si je comprends bien, en fait, le syndicat décide d'enclencher la surmultipliée et de son côté, le patron aussi, en commençant à muter les gens pour régler le problème à sa façon. D'accord.
En décidant en gros de muter les salariés sur d'autres sites. Alors, à l'hôtel Ibis des Batignolles, ils ont une cadence moyenne de effectivement 20 à 30 chambres. Alors,
la cadence moyenne, elle est de 20 à 30 chambres. Et alors, qu'est-ce qu'a décidé STN ? C'est de muter les salariés. En respectant entre guillemets les restrictions à la médecine du travail, mais en les envoyant sur des sites où de plus grand standing, c'est-à-dire que par exemple, oui, la médecine du travail a dit c'est pas plus de 2 chambres à l'heure, et eh bien en fait la société STM va envoyer effectivement va respecter les 2 chambres mais dans un hôtel de luxe.
Et donc, si je comprends bien, le bénéfice de l'organisation là, pour le coup, comme le patron a lui aussi passé à l'attaque, il s'est vu à ce moment-là en fait. Je pense que vous auriez été moins prête si vous aviez pas déjà commencé à vous organiser entre vous, non ? Quand il décide lui de passer à allez, on va dégager 18 personnes, comme vous aviez déjà un rapport entre vous, j'imagine que ça a permis plus vite de réagir, c'est ça ?
Oui, ça nous a permis très vite de réagir et de quand la date quand on a eu la date on est descendu tous. On est passé parce qu'il y a quand même 9 étages. Il y a travaillé, moi, mon collègue et moi, nous sommes passés dans chaque étage pour dire bon, c'est le moment, il faut descendre, de dire à STN stop. Nous ne sommes pas des animaux et il ne va pas nous muter comme ça, comme il en vit, parce que nous sommes malades. Donc, en fait, nous sommes descendus tous et c'est comme ça est partie la grève.
D'accord. Et donc là, le piquet s'installe, prend la visibilité au pied de l'hôtel.
D'abord, on était à l'intérieur de l'hôtel.
Ouais.
Et comme on faisait, on avait des confettis partout. Donc, on nous a envoyé au tribunal et le juge nous a mis dehors devant l'hôtel. Donc, maintenant, on a fait le piqué tout juste devant l'hôtel.
D'accord. Vous avez pu occuper l'hôtel combien de temps alors ? Le hall de l'hôtel, combien de temps ?
Je ne sais plus.
Un mois et demi.
Un mois et demi à peu près. Okay. Et après, piqué devant l'hôtel ?
Oui, devant. Bon, pas tout juste devant, mais à côté.
Voilà. Ok, d'accord. Et donc ce piquet attire des gens qui veulent prêter main forte, hein, puisque c'est votre but. Vous faites le maximum de bruit, vous faites un maximum d'actions pour attirer des gens, des soutiens. Donc un de ces soutiens à ce moment-là est Louise. Donc Louise décide de s'intéresser au piquet Ibis. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Qu'est-ce que tu as trouvé ?
Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut vouloir soutenir cette grève. Bon, déjà, je pense qu'on n'a pas besoin d'en donner spécifiquement pour venir sur le piquet soutenir. Du coup, les travailleuses en lutte, mais bon, quand même, on est des militants et des militantes, donc on y va avec des intentions. Je pense que déjà, la première intention, c'est un échange qui est très simple, qui est l'échange de la solidarité. L'échange, en fait, où moi, je vais sur le piquet avec mes camarades et j'essaie de donner de la force aux grévistes, j'essaie de leur transmettre, en fait, tout ce qu'elles peuvent nous inspirer. J'essaie de les encourager à poursuivre leur combat, parce que leur combat, il est important pour elles, mais il est important plus généralement pour en fait toutes les personnes qui se battent pour de meilleures conditions de travail. Et puis en échange, en fait, elle m'apporte cette force de la lutte qui est une force très particulière, qui est celle de la motivation à relever la tête. Et je trouve que ça, il n'y a aucun discours qui peut se substituer à la lutte. Et en fait, quand on voit des camarades en lutte, quand soi-même on n'est pas en lutte, et ben c'est la meilleure façon de se donner de la force de poursuivre le combat. Mais au-delà de cet échange premier, quoi, qui est le premier échange de la solidarité, on va sur un piquet avec tout ce qu'on est, de la même manière que Rachel, tu es en lutte avec toute ta personne, toute ta personnalité, en tant que soutien, on vient aussi avec toute sa personnalité, et c'est normal. On vient aussi avec ses idées politiques. Ouais. Et moi, je dirais qu'il y a... Il y avait un peu j'avais deux raisons principales pour lesquelles je souhaitais spécifiquement faire un travail de soutien sur cette grève. La première, c'est que, en fait, cette grève, c'est une grève contre l'exploitation au travail, mais c'est aussi une grève antiraciste, une grève féministe. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des problèmes du syndicalisme contemporain contre lequel lutte d'ailleurs la CGT-HPE, d'invisibiliser ces questions-là. En fait, de séparer artificiellement les questions sociales des questions politiques. Et ça, c'est vraiment
vraiment une grosse erreur. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, qui en fait a porté toutes ces questions sociales, les questions démocratiques, je sais pas, la question du logement, les femmes Gilets jaunes aussi, qui étaient très importantes, qui parlaient du fait d'être femmes célibataires, etc. Et en fait, aujourd'hui, le syndicalisme, il parle pas de ça. Et je pense que c'est vraiment hyper important d'en parler en tant que militante féministe. Ça nous semblait important aussi de mettre l'accent sur cet aspect de la lutte. Et puis la deuxième raison, c'est celle que, en fait, dans une lutte, on construit un rapport de force contre le patronat, la contre-accord STN, mais on construit aussi un rapport de force plus général dans la société. Et je pense que le rôle des personnes qui viennent en soutien, c'est aussi aider à faire ce qu'on appelle cette convergence des luttes, quoi. Aider à faire connaître cette grève, aider à la mettre en lien avec d'autres luttes et aider à construire un rapport plus général dans la société, à donner de l'écho à cette grève.
Juste pas d'expérience, effectivement, c'est toujours très intéressant d'avoir en soutien et en piqué, on va dire, implanté dans le piqué, embedded même, on pourrait dire, des gens qui viennent d'autres associations, d'autres organisations, avec peut-être d'autres préoccupations, parce que souvent c'est l'ouverture à la fois vers des questions qui sont pas forcément tout de suite dans le réseau syndical, mais aussi d'ouverture vers d'autres réseaux de soutien. Effectivement, le mouvement féministe, ça l'interpelle, Ibis. Il a quelque chose à dire aussi sur Ibis. Et Ibis a quelque chose à dire, enfin, les grévistes d'Ibis ont quelque chose à dire au mouvement féministe aussi. Donc c'est intéressant d'avoir ces gens-là tous ensemble, sur un piquet. Qu'est-ce que, par exemple, sur la grève d'Ibis, est-ce qu'il y a une question qui a émergé dans ton expérience? Tu t'es dit, tiens, je me posais pas cette question-là avant, mais cette fois-ci, là, depuis que il s'est passé tout ce qui s'est passé, 14 mois, c'est long, mais est-ce qu'il y a une chose que tu te dis, ou deux, je sais pas combien, tu te dis, tiens, ça, avant de le faire, je ne m'y attendais pas, mais peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour moi.
Mais je ne m'attendais pas déjà au voir comme ça des soutiens, parce que quand même, ça fait longtemps que je travaille. Je n'avais jamais vu autant de soutien comme ça. Et puis, l'efficacité aussi, c'est ce qui m'a fait aussi plaisir. Je ne savais pas aussi qu'il y avait un syndicat aussi honnête qui... Je dis ça toujours parce que quand même, on a beaucoup souffert quand même avec... Et la CGT propriété, partout, je pense, je le dis. Et je ne savais pas qu'on devait avoir aussi un syndicat honnête qui allait quand même écouter les pauvres femmes de chambre et aussi avoir aussi le soutien des féministes, c'est les Rosie. Et dans nos mouvements, elles sont là, elles sont avec nous. Donc, voilà. Et ce qui aussi m'a choqué, m'asseoir comme ça, m'inviter à une radio, parler, ou bien à la télévision, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même.
Ouais, c'est ça en fait. Et c'est des choses qui en fait sont nécessaires quand on fait, quand on s'engage comme ça. Et peut-être qu'on ne s'aperçoit pas qu'elles sont nécessaires. Et heureusement, parce que finalement on se dit on ne va pas y arriver. Mais en fait, on finit par y arriver parce qu'elles sont nécessaires. On est bien obligé d'y aller. Et que c'est là qu'effectivement, on part avec un bagage. Heureusement, il n'y a pas que la victoire, il n'y a pas que les questions de victoire ou de défaite. On a eu pas mal de défaites, nous aussi à l'inspection du travail, mais aussi les choses qu'on a apprises. Peut-être c'est les choses qu'on a apprises en perdant qui nous ont permis pour Anthony de gagner. Et il faut toujours se donner cette idée que, toute expérience est bonne à prendre. On préfère les bonnes expériences de victoire ou on a tout ce qu'on veut, mais en attendant, toujours engranger ce résultat. Alors. Je voulais revenir justement sur la question de la répression parce que y a un deuxième son que nous allons écouter qui est l'intervention donc de Thomas de l'hôpital du Rouvray lors de le même meeting et qui lui justement cherche à nous faire regarder un peu plus loin. On est tous le nez dans le guidon, victime de la répression, victime de la lutte du patron contre nos demandes et nos besoins. Mais il dit, à ces différentes échelles, ce qu'on fait, c'est important. C'est pas sans importance.
Bonsoir à tous. Je m'appelle Thomas. Je suis infirmier au CH du Rouvray, près de Rouen. Je suis représentant sud au CHSCT. Alors, au CH du Rouvray, en mars, en plein Covid, la direction a produit une note de service qui obligeait les agents à faire sécher les masques à usage unique pour les réutiliser sur plusieurs jours, et qui interdisait le port du masque aux patients psy-Covid+, au prétexte qu'ils seraient incapables de les gérer et que de ce fait, ils dissémineraient le virus. Cette note de service a été publiée sur Facebook par le collectif des Blouses Noires pour la dénoncer. Et on est un certain nombre à l'avoir partagé et commenté, y compris pas très poliment, notamment en ce qui me concerne et puis en ce qui concerne Philippe, qui est mon collègue du Rouvray, qui est ici aussi. Quelques jours après, 9 agents en tout ont été convoqués pour une enquête administrative qui débouchera sur une mutation interne punitive pour un cadre de l'hôpital et sur 2 procédures disciplinaires contre Philippe et moi. En fait, on sera viré 10 jours pour lui et 15 jours pour moi, sans solde, dont 5 jours de sursis. Alors initialement, on a appris que la direction voulait nous faire révoquer de la fonction publique. Puis finalement, on a encouru plutôt une suspension de 2 ans sans solde. Puis finalement, ça aura été 15 jours. Alors, il y a 2 choses qui ont permis cette rétrogradation de la direction. Évidemment, il y a eu la mobilisation et le soutien des collègues et des gens à l'extérieur. Et puis surtout, il y avait le fait que la direction du Rouvray ne pouvait pas cacher qu'avec cette note indigne, elle avait mis en danger des agents, des familles, des patients et qu'elle avait discriminé des patients psy, ce qui, pour un hôpital psychiatrique, est quand même hallucinant. Alors, si cette initiative interpro de lutte contre la répression du travail existe, c'est que nous avons constaté que nous étions concernés par la même vague de répression à l'encontre des militants, des syndiqués et des contestataires. Je dis « concernés », je ne dis pas « victimes », c'est à dessein. Alors bien sûr, nous subissons des pressions, des sanctions, des menaces. Mais pour autant, endosser le statut de victime serait réducteur. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des gens qui faisons correctement leur travail. Nous sommes des militants. Nous sommes des gens en lutte. Ces combats, nous les menons depuis longtemps, nous tous qui sommes là devant vous ou dans la salle. Et c'est bien pour ces combats que nous sommes visés. Et ce sont des prétextes qui ont été avancés pour nous nuire. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est de ça dont il s'agit. D'un combat contre l'injustice, contre la dégradation des conditions de travail, voire de vie. D'un combat contre la violence des patrons, du gouvernement ou de l'État. On prend des coups parce que ce contre quoi nous nous battons n'est pas inerte. En face, ça se défend, ça attaque. Ça ne veut pas lâcher l'affaire et ça fera tout pour se débarrasser de nous. Ça ne veut pas dire que les sanctions contre les militants sont acceptables. Absolument pas. Mais ça veut dire que la riposte des patrons, des directions et du gouvernement, elle est à la hauteur de nos engagements. En d'autres termes, s'ils nous frappent aussi fort sur la tête, s'ils déploient autant d'énergie et de moyens pour nous bâillonner, pour nous casser, ou en tout cas pour essayer, c'est parce qu'on les emmerde. Pourquoi est-ce qu'ils s'occuperaient de nous si on était inoffensifs pour eux ? Pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à nous déglinguer à ce point-là s'ils ne pensaient pas que nous sommes dangereux pour eux ? Car oui, on peut en être sûr, nous leur mettons des bâtons dans les roues, nous les empêchons de faire ce qu'ils veulent, nous empêchons d'installer tranquillement un système dont nous ne voulons pas. Alors je tiens à le dire à mes collègues réprimés, et puis à vous tous présents, hein, ou ceux qui suivent le meeting sur les réseaux, si vous subissez cette vague de répression, c'est que dans votre action syndicale, militante et contestataire, ben vous êtes bons. Vous êtes même très bon. Et c'est bien pour ça qu'il faut continuer dans nos actions. Il ne s'agit pas uniquement de se défendre. Il faut continuer à attaquer. Je crois que là où il y a de la répression, il y a une lutte à intensifier et à approfondir. Je crois que là où il y a de la répression, il y a un gouvernement, une administration, une direction qui sont aux abois et qui probablement n'ont jamais été aussi proches de tomber. Alors pour terminer, on a eu un petit échange de vues entre nous pour déterminer qui était responsable de cette répression. Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est le gouvernement ? Est-ce que ce sont nos directions ? Je pense que les uns ne peuvent pas fonctionner sans l'aide des autres. C'est un système, tout simplement. Il n'y a donc aucune raison de laisser tranquille l'un ou l'autre des rouages de ce système. Peu importe sur lequel de ces rouages on fera action, ce qui compte, c'est de lutter et de continuer à lutter comme nous le faisons. Merci.
Donc voilà, c'était quelques rappels un peu salutaires hein, de la part de Thomas Duvouray. Je trouve qu'il a posé quand même un certain nombre de choses, notamment effectivement, alors quelque part, tous les salariés sont victimes de leur employeur, mais la plupart du temps, ça se voit pas. C'est-à-dire que ça se fait à bas bruit, ça se fait en silence, et en fait, là où je le rejoins, quand on commence à être réprimé, c'est un peu parce qu'on cesse d'être victime. C'est vrai que bon, c'est jamais très très agréable, mais c'est aussi le signe que on fait peut-être quelque chose de correct en réalité, quoi. C'est ça, c'est que le patron avait prévu qu'on se pose pas de questions, le patron avait prévu qu'on demande rien, on rentre pas dans ses plans. Hein. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Il faut quand même se garder de la répression. je dirais, allez, est-ce que chacun peut me parler d'une victoire qu'il a eue contre la répression? Moi, c'est bon, j'ai posé Anthony sur la table, ça c'est bon, ça y est, nous on a gagné. Donc, est-ce que chacun se sent de dire, tiens, il y a un coup, on a marqué un point là. Est-ce qu'il y a un événement où on a marqué un point face à la répression? Pas forcément quelque chose de faramineux, hein. C'est pas la révolution, ok, on n'a pas pris le palais d'hiver ces derniers temps, mais dans le combat, on marque des points. Quel est votre dernier souvenir de points marqués? Qui veut commencer?
Mais au moins, le point qu'on a marqué, c'est la grève qu'on a commencée. Uh-huh. Ça, on les a bien marqués, le point, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Uh-huh. Ils se disaient, ils nous ont négligés. Uh-huh. Ils ne savaient pas qu'on allait tenir face à eux, parce que quand même, le groupe Accord, ce n'est pas un petit groupe. Donc, ouais. Voilà, ça, je pense que c'est une première victoire d'abord, et la deuxième victoire viendra.
D'accord. Ouais. Être en lutte, c'est déjà marquer le point, quoi.
Ouais.
Ok. Louise?
Moi, la chose qui me vient à l'esprit, là, c'est la répression qu'on subit en manifestation, parce que c'est vrai que ça a touché de plein fouet le mouvement social ces dernières années. Et notamment, nous, dans nos collectifs féministes, ça a été une grande question: comment est-ce qu'on fait pour faire face à cette répression en manifestation sans vouloir adopter une attitude à tout prix viriliste ou dire aux gens, si, faut y aller, faut tout se prendre dans la tête, et comment ça, tu veux pas aller en manif, tu veux pas faire face à la répression? Et du coup, ça a donné lieu à beaucoup de réflexions dans les milieux féministes. Sur comment est-ce qu'on peut poursuivre la manifestation, continuer à aller dans la rue, parce que prendre la rue, c'est un élément essentiel, tout en se protégeant. La dimension de protection est vraiment importante. Et du coup, on a pas mal réfléchi autour de ça, et ça a donné lieu à des organisations de cortèges où on faisait très attention les uns les unes aux autres, où on se mettait en binôme, où les personnes qui voulaient sortir de la manifestation étaient accompagnées, mais pour autant, on tenait le cortège. Et je pense que cette réflexion-là, elle a traversé tout le mouvement social de ces dernières années. Elle a aussi permis de poser beaucoup de questions sur le rapport à la violence. Ça a permis de poser avec vachement plus d'ampleur la question de la violence d'État. Ça a été redoublé par le mouvement antiraciste dans les quartiers populaires, là, qui est notamment s'est beaucoup fait entendre avec les rassemblements de ces derniers mois. Donc voilà, ça c'est une des victoires que je dirais qu'on a eues.
Je résume donc. On gagne le point en se mettant en lutte. On gagne le point en apprenant, en fait, et en grandissant par la lutte. Et pas de bol pour toi, Tiziri, parce que c'est toi qui finis, il va falloir que tu conclues encore plus fort. Donc, comment est-ce qu'on gagne le point, Tiziri? Merci.
Je sais pas comment on gagne le point, mais moi, je pense que... Enfin, moi, je rejoins complètement ce qui a été dit avant moi. Enfin, je parle, pour le coup, sur mon expérience à la CGT-HPE. Je pense que notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est quand même d'avoir gagné toutes nos grèves, déjà. De les avoir gagnés doublement parce que, on a effectivement participé avec ces femmes de chambre et ces hommes qu'on appelle très souvent en sociologie les personnes qui ne sont pas susceptibles à être les plus à se révolter ou qui n'ont pas trop les moyens de la révolte. Et bien, en fait, on a prouvé que effectivement ces femmes et ces hommes, quand ils ont un moyen syndical avec eux, et bien ils peuvent faire grève, ils peuvent se rebeller et surtout ils peuvent gagner, parce qu'on a quand même gagné 13 internalisations dans 13 hôtels en France, et ça on est vraiment très très fiers.
Je rappelle juste, l'internalisation, c'est le fait en fait de transformer des CDD ou des contrats de sous-traitance en CDI direct en interne.
En interne. Donc on a effectivement gagné contre la sous-traitance, donc quand même 13 hôtels en France. Et puis effectivement, notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi quand même à faire de ce sujet des femmes de chambre et des salariés du ménage un sujet politique en France. Et ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de très 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 important, parce qu'effectivement ces salariés-là ont pu relever la tête, ont pu gagner des victoires et à travers effectivement ces grandes victoires, on a pu à la fois relever la tête contre la bureaucratie syndicale qui justement ruine le syndicalisme aujourd'hui en France et dans le monde. On a relevé la tête contre le patronat qui s'attaque toujours pour plus d'exploitation et de surexploitation des salariés. Et je pense que beaucoup de victoires sont à venir Restez avec nous.
Ok, alors bah, c'est moi, je vais faire le récapitulatif des 4 points, car il y a 4 points. Alors, on se met en lutte, on apprend par la lutte, on ne lâche rien, comme disait Anthony, et on remporte donc, merci Tiziri, des victoires éclatantes, et c'est comme ça que c'est plié. Et ben voilà, ben, il n'y a plus qu'un, hein. Maintenant on a un mois jusqu'à la prochaine émission, on va revenir, il nous faut des têtes maintenant. Allez, on a, et, moi j'ai mis celle de Strio sur la table, maintenant vous n'avez plus qu'à surenchérir. Tranquille, c'est parti. Merci et puis à la prochaine fois.
Œil pour œil, bouche à bouche, comme on baise, on se couche. L'avenir est un nègre et c'est pas au vinaigre qu'on prend les bateaux mouches. Vivre est un train aveugle et ses voyageurs meugles.